écoutez Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Encore une virée chez nos voisins québécois pour ce nouveau numéro Diggers dédié aux découvertes musicales, puisque vous retrouverez Marcus en délégation au festival canadien Le Festif, qui a rencontré l'artiste congolo-canadien Pierre Quenders de Moonshine, un collectif connu pour leurs événements qui met en avant la musique et les artistes afro-électroniques. Nous vous parlerons également de Panorama, le dernier opus de la musicienne montréalaise Hélène Barbier, abordant sa santé mentale dans un registre avant-pop flamboyant, teinté de post-punk. Hélène Barbier produit 9 titres parfaitement maîtrisés au sein de cet album que la Ferrarock soutient cette semaine aux côtés du disque rêve de l'artiste et beatmaker Senbei, qui a fait appel à 15 musiciens et musiciennes pour une plongée dans un univers orchestral et cinématographique à découvrir tout de suite avec Marcus de Radioactive.
Bonjour à toutes et tous, ici Marcus pour les radios de la Ferrarock. Aujourd'hui même, nous sommes le 14 novembre au moment où cet enregistrement a lieu et c'est avec grand plaisir que nous allons évoquer un album étonnant et dans la parcours de son créateur et aussi tout simplement dans son rendu. Cet album, il s'appelle Rêve, il est signé Senbei et on va pouvoir en échanger avec le créateur lui-même qui est au bout du fil. D'abord, quelques notes d'un Childlike Empress qu'on écoute tout de suite sur vos radios de la Ferrarock. Écoutez bien votre radio de la Ferrarock et vous n'êtes pas en train d'écouter une bande originale de film, quoique ça aurait pu être le cas. Et peut-être on en saura un peu plus, on va sûrement en savoir un peu plus en compagnie de Senbei, le créateur de ce très beau rêve. Salut Senbei.
Salut, merci de m'avoir invité.
Et bah, très heureux de célébrer cet album qui est une rupture par rapport à tout ce que tu as pu faire avant, quoique même on retrouve quand même quelques petites choses qui caractérisent ton œuvre et ta musique, ces petits bouts qui s'apparentent à des collages, ces extraits, ces voix qui ont un traitement toujours un peu spécifique. Mais cet album, je le disais, c'est quelque chose d'assez nouveau. Je parlais de bande originale de film, on n'est vraiment pas très loin de ça, quoi.
Bah oui, c'est exactement ça, étant donné que en fait avec cet album j'ai écrit un livre et que du coup le livre parle beaucoup de ma vie, de mes proches, de mes amis, de mes histoires aussi, et du coup en fait la musique et le livre se complètent. Du coup, la musique est devenue la BO de cette histoire que je raconte dans mon livre, en fait.
Et on te connaissait, nous, à travers ton amour du Japon, et je ne peux pas ne pas commencer un petit peu par là, cher Senbei. Évidemment, Rêve, c'est un film très connu de Akira Kurosawa. Est-ce que c'est un hasard si cet album s'appelle Rêve, ou est-ce qu'il y a un peu de Kurosawa qui est pas très très loin de tout ça?
Alors, c'est absolument pas un hasard. C'est en fait à la fois le titre et à la fois la pochette de mon album sont un hommage à ce film. En fait, j'ai un amour particulier pour ce film parce que c'est le premier film que j'ai vu enfant qui n'était pas un film ni français ni anglo-saxon. Mm-hmm. Et c'est un film qui m'a mis une grosse tarte dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, c'était un cinéma différent déjà. Dans la façon de faire. Et puis aussi, c'était des histoires, des contes et légendes japonaises qui m'ont en fait ouvert à la fois au cinéma international et à la fois au Japon que j'aime beaucoup et que j'essaie de représenter beaucoup dans ma musique. Mais la particularité de cet album, c'est que ça va être le seul truc un peu japonais de cet album, c'est cet hommage à Kurosawa, mais qui marque pour moi quelque chose de très important dans ma vie en fait.
Et je sais que tu as aussi un sens de la symbolique très affirmé. Ça, je parle évidemment de tout ce que tu as pu faire avant, que ce soit tes collaborations notamment avec Altarba, Smokey Joe and the Kid ou encore Slump. Tous ces projets sur lesquels tu as mis plus que ta patte, où tu t'es beaucoup impliqué. Je disais, tu as un sens de la symbolique très fort qu'on retrouve aussi sur ce rêve. Évidemment, s'il y a un livre qui va avec, ça explique pas mal de choses. Mais c'est important chez toi de suggérer aussi, de donner à entrer comme ça dans ton univers.
Alors oui, c'est vrai que moi j'ai un lien avec le cinéma et avec l'image très fort. J'ai fait des études de cinéma. J'aurais aimé faire ça de ma vie, mais quand j'ai commencé à faire des films, ça m'a paru bien trop compliqué. Donc je me suis dit la musique c'était plus cool. Mais ouais, moi j'écoute beaucoup de compositeurs de films et ça m'a toujours inspiré. Mes premiers morceaux sur mes premiers séquenceurs, donc à l'époque c'était sur ma PlayStation, j'essayais de refaire des orchestrations de Danny Elfman ou des choses comme ça. Donc j'ai toujours décortiqué les musiques de films qui me parlent vraiment peut-être plus que des musiques d'artistes qui disent que, enfin voilà, tu m'as compris.
Oui.
Mais ouais, parce que l'image est là, donc ça parle, ça donne quelque chose. Et moi, c'est un truc que j'ai pas toujours, parce que les morceaux sont pas toujours destinés à vouloir être collés sur de l'image, mais j'ai quand même un peu eu envie de faire de temps en temps des espèces de petites respirations comme ça qui permettent d'avoir des visions, de voir des choses qui dépassent un peu la musique, quoi.
Et quand je parlais de symboles, je parlais de symboles oniriques, bien évidemment, et c'est ce qu'on retrouve évidemment sur un album qui s'appelle Rêve. Il y a quelque chose aussi de très important sur cet album, c'est que, comme tu le disais, toi, tu es un compositeur, tu connais les séquenceurs, tu sais bien réaliser de la musique électronique, mais là, pour le coup, tu as fait appel à un orchestre de 15 musiciennes et musiciens. Ça, c'est une véritable aventure aussi.
Alors oui, c'était chouette. Après, moi, j'ai quand même tout composé. L'album est composé, je dirais 95% de l'album, ça vient de moi, mais ça vient de mon ordi, quoi. C'est des instruments MIDI, donc c'est des faux violons, des faux cuivres, etc. Et j'ai fait appel à un ami qui a fait ce que j'étais pas capable de faire, c'est-à-dire écrire tout en partition pour qu'effectivement un orchestre puisse jouer. Et ça, c'était au départ, c'était pas prévu. Et puis, en fait, en travaillant avec le label, on s'est dit que ça serait chouette pour ce projet en particulier de pouvoir le faire. Donc, on l'a fait, quoi. Et je suis vraiment très content du rendu.
Et ça donne, comment ça donne de ce, enfin, je veux dire, en soi-même et dans son intérieur, quand on se transforme un peu en chef d'orchestre, est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà pratiqué ça avant?
Alors, pas du tout. J'avais déjà fait des orchestrations pour certains films. Mais du coup, j'étais pas passé par cette étape-là. C'était que du son synthétique et là je me suis retrouvé en studio devant tous ces musiciens qui jouaient mes morceaux et je dirais pas que je l'ai mal vécu, mais j'ai passé une journée à avoir la trouille, quoi. J'ai eu la trouille toute la journée. J'étais pas forcément heureux, j'étais inquiet de me dire putain, mais tous ces musiciens professionnels sont en train de jouer mes trucs, ça me mettait très mal à l'aise et en même temps j'étais super heureux d'entendre parce que je me disais, ouais, c'est bon, ça sonne quand même pas mal, ça sonne bien. En plus, les musiciens étaient des musiciens professionnels, donc ils arrivaient avec les partitions, hop, ça jouait direct, ça enregistrait direct.
Ouais.
Et puis le soir, je suis rentré, ça a duré une journée, toutes les prises de l'album. Et le soir, je suis rentré chez moi et j'ai littéralement fondu en larmes dans ma bagnole à cause de l'émotion. Et le lendemain, j'étais malade pendant 4 jours. Donc voilà ce que ça m'a fait.
Bah, la musique guérit, mais visiblement, on est un peu malade aussi. En tout cas, c'est une beautiful maladie, comme dirait l'autre, et ça nous donne surtout un magnifique album. Je te propose qu'on se passe quelques notes du Pinocchio Syndrome et on continue cette discussion ensemble avec Senbei sur vos radios Ferrarock. Thank you. Signé donc de Senbei, et puis on y retrouve aussi sur cet album Senbei un petit peu d'enfance, quelques voix, des cordes aussi, ça c'est des choses que tu pratiquais d'ores et déjà, et même s'il y a un orchestre, et même si voilà, tu as beaucoup, comment dirais-je, eu beaucoup d'émotions, tu es quand même, tu as quelques fondamentaux qu'on retrouve sur cet album, c'est ce que je veux dire.
Oui, alors... C'est au départ l'album, quand j'ai commencé à faire ce projet-là, je voulais vraiment faire une vraie cassure par rapport à ma discographie, par rapport à tout ce que j'avais fait précédemment. En fait, ça devait être un album plus ambiant, vraiment que de l'ambiant, de l'orchestral. D'accord. Et puis, petit à petit, je me suis dit, je vais quand même ramener un peu de Senbei là-dedans, parce que j'avais à la fois envie de faire ce projet un peu différent, et c'était une volonté, et à la fois, j'avais pas forcément envie non plus de perdre trop les gens. C'est quand même des morceaux dans l'album qui sont très particuliers, très orchestraux et du coup très différents de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Donc j'ai quand même essayé de ramener un peu de choses que les gens aiment chez moi, à savoir un petit peu d'hip-hop, un peu de sampling aussi, même s'il y en a quasiment pas dans l'album. Ouais. En l'occurrence, là, les voix qu'on vient d'entendre, c'est un sample. Mais par contre, oui, chaque morceau... à son histoire et quelle que soit la manière dont il est fait ou il est traité, chaque morceau a son histoire et plus globalement, je veux dire, l'album a une cohérence globale aussi qui est très importante. Et là, en l'occurrence, ce morceau parle de ma phobie des fonds marins.
D'accord.
C'est ce que j'explique dans mon livre et c'est pour ça que il y a ces petites voix d'enfants qui disent, qui chantent gaiement qu'il y a un trou au fond de l'océan et que moi, ça me terrifie.
et qu'est-ce qu'il vient faire Pinocchio? Parce qu'il y a un titre qui parle de Pinocchio, du syndrome Pinocchio d'ailleurs. Explique-nous ce que c'est que le syndrome Pinocchio, Senbei.
Alors, en fait, j'ai cherché une maladie qui n'existait pas pour. Parce qu'il existe par exemple le syndrome de Peter Pan.
Ouais.
Donc j'ai vérifié si le syndrome de Pinocchio existait et c'est un. Disons que c'est une vision parallèle à l'histoire, à la véritable histoire de Pinocchio, au véritable conte de Pinocchio. C'est une vision de quelqu'un qui reste dans son corps d'enfant et qui refuse de grandir parce que, disons qu'il refuse de se métamorphoser en humain, qui pour moi, en fait, dans mon interprétation, signifie se métamorphoser en adulte. Et en fait, c'est un peu comme ça que je me définis. Donc, dans mon bouquin, je raconte un peu toute ma vie, toute ma scolarité, dans ce chapitre et je raconte qui je suis, comment je fonctionne, etc.
C'est une autobiographie. C'est une autobiographie pour le coup.
C'est partiellement une autobiographie parce que je parle pas que de ma vie à moi. Il y a aussi dans le livre, il y a aussi des chapitres qui sont vraiment dédiés à des histoires que j'ai inventées, tu vois.
Ouais.
Mais là, pour le coup, c'est l'intro du morceau de l'album, donc il fallait que je parle un peu de moi sur ce morceau-là.
Et c'est vrai.
Donc du coup le Pinocchio syndrome, ça serait un espèce de syndrome de quelqu'un qui refuserait de se métamorphoser et d'accepter sa vie d'adulte en fait.
Et je suis pas tellement surpris parce que tu es un raconteur d'histoire, en tout cas un raconteur d'histoire musicale, ça c'est sûr, c'est ce que tu fais depuis bien longtemps. Je reviens quand même à une de tes précédentes collaborations qui moi m'avait beaucoup intéressé, c'était celle avec Slumb. Là c'était aussi une rencontre avec un musicien pour le coup. On sent que t'es très attiré quand même par justement travailler avec des musiciens dont c'est peut-être un peu qui sont moins des faiseurs de sons, des beatmakers comme toi. On sent que c'est quelque chose que t'aimes explorer quoi.
En fait, j'ai passé beaucoup de temps. Quand j'ai commencé à faire de la musique, je jouais principalement avec des groupes. Donc ça a été formateur, même si c'était vraiment très tôt dans ma carrière. Donc c'était même avant que j'ai une carrière en fait.
D'accord.
Mais c'était une expérience particulière. Et ensuite, j'ai fait de la musique tout seul, quoi, dans mon coin, dans ma tanière. J'ai même envie de te dire. Et en fait. C'est à la fois une bonne chose parce que c'est ce que je voulais en fait en fuyant mes études de cinéma. C'était être voilà être à 100% impliqué dans mon truc et être seul, ne pas avoir de responsabilité, de gens qui peuvent freiner le projet. Et puis en fait, avec le temps, c'est usant, je trouve. C'est usant et puis musicalement, on s'enferme un peu.
Ouais.
Et après, j'ai eu des collaborations. Donc il y a eu Smokey Joe, par exemple, donc qui ont été très bénéfiques pour moi en fait. Tout simplement d'échanger avec un autre musicien, c'est fabuleux, parce qu'on a forcément pas les mêmes la même vision, on n'a pas la même façon de faire. Et en fait, enfin, juste en parlant de musique pure, ça peut être que enrichissant. Et ensuite, j'ai eu ma collab avec Altarba, qui m'a appris à rajouter un peu de sale, un peu de crade dans ce que je faisais. Et moi, à l'inverse, je lui ai appris à rajouter un petit peu de propre aussi dans ce qu'il faisait. Donc, on s'est tous les deux nourris l'un de l'autre.
Ouais.
Et puis, effectivement, on arrive sur cette collab avec Julien Marchal, donc qui est un grand pianiste, et qui, il m'a appris énormément de choses. On n'a pas du tout la même manière de faire de la musique, en fait. Donc, moi, travailler avec des gens comme ça, ça m'enrichit, ça me nourrit et ça me donne envie de travailler mes futurs projets peut-être de telle ou telle manière.
C'est ça finalement ta part d'enfance qu'on évoquait tout à l'heure avec notamment Kurosawa, parce que dans ce film Rêve, on le voit enfant, et l'enfance est très importante dans ce film-là. C'est cette volonté pour toi, Senbei, de continuer à apprendre avec d'autres, avec des musiciens, avec Altarba, que l'on retrouve d'ailleurs sur le titre Bubbles qu'on va écouter un petit peu après. C'est ça ta part d'enfance pour le coup?
C'est oui et non, mais moi j'ai appris la musique comme ça. J'ai appris en me mettant en contact avec des gens, et parce qu'à l'époque où moi j'ai commencé à faire de la musique, il y avait pas Internet, il y avait pas de choses comme ça. Donc tout ce qu'on apprenait, moi j'ai appris à scratcher en regardant des vidéos, des VHS. ouais, il y a un peu une part d'enfance dans le sens où être autodidacte, c'est aussi ne pas avoir de professeur, pas avoir de responsabilité, pas avoir de devoir à rendre. Donc c'est embrasser un peu l'exploration et la découverte, quoi. Et c'est chouette en fait d'aller creuser soi-même et d'apprendre soi-même. Ça fait grandir sans avoir l'impression qu'on grandit en fait.
En tout cas, nous, ça nous ravit ce rêve, je dois le dire, et c'est avec grand plaisir qu'on se le passe et qu'on l'a beaucoup diffusé sur les radios de la Ferrarock tout au long de cette semaine, évidemment. Puisqu'on parlait d'Altarba, on se passe le titre Bubbles, quelques extraits de ce titre que l'on retrouve donc sur l'album Rêve paru chez Banzai Lab. Bubbles, c'est signé Senbei en compagnie d'Altarba sur ce titre et c'est l'un des featurings que l'on retrouve sur ce très bel album qu'est Rêve. Là, on n'est plus chez Pinocchio, Senbei, on est plutôt chez les deux méchants qui croisent dans le parc d'attractions.
Ah, excellent, c'est ça.
ça me fait, là pour le coup, ça ressemble plus à ça. On sent que vous êtes bien marré là-dessus en tout cas.
Ouais, oui, puis c'était là je voulais pas faire un morceau avec lui, je voulais vraiment qu'il soit en featuring. Et c'est un morceau donc qui a une place importante dans l'album. Et dans le livre aussi, mais c'est aussi un hommage à mon pote en fait, et à tout ce qu'on a vécu là depuis 2017, depuis le premier Rock Monsters.
Ouais.
Parce qu'on se connaissait pas vraiment avant, on se tournait un peu autour, on va dire. Mais la collab, c'est probablement ma collab préférée en fait avec Altarba, parce qu'on est très différents musicalement et humainement. Et je pense que c'est bien qu'on soit différents, en fait.
Les contraires s'assemblent, c'est bien connu. C'est pas le seul featuring, on retrouve des gens que l'on connaît un petit peu sur les radios de la Ferrarock, comme un certain Miss Lianus, que l'on retrouve sur l'un des titres. Et puis, je me suis arrêté aussi sur ce featuring avec Opaline. Je veux bien qu'on en parle, parce que, d'abord, je crois que c'est la seule voix féminine aussi mise en avant dans l'album. Et on la découvre un peu avec toi, Opaline.
Alors, oui, elle est... Elle est professeure de chant, en fait. Donc, elle est pas, son activité principale, c'est pas de sortir des morceaux, même si elle fait des featuring de temps en temps.
Elle sait bien chanter. Elle sait absolument bien chanter, je dois le dire.
Ah oui, c'est monstrueux. Mais moi, je l'ai découvert par des amis avec qui elle a bossé. Et j'ai adoré ce qu'elle proposait, parce que j'avais envie d'une voix sur cet album qui soit entre le jazz et justement le côté onirique. Je voulais pas que ce soit trop jazzy, en fait.
Ouais.
Et elle correspondait vraiment très bien à ce truc-là. Et d'ailleurs, elle est sur le single qu'on a sorti qui s'appelle Goodbye. Et elle est aussi sur mon morceau préféré de l'album, qui est le morceau caché, en fait, le morceau bonus, le dernier, le tout dernier.
Donc, il faut avoir chez soi pour, qu'il faut donc avoir en album chez soi pour pouvoir l'écouter, bien évidemment. On s'écoute quelques notes de ce Goodbye, si tu veux bien, avant de conclure cet entretien.
Sometimes I doubt, but you are still here, and I don't know why, but I thank you for what you've done.
Quand on vous disait qu'elle sait chanter, malheureusement le temps passe très vite, cher Senbei. Nous, on est ravis d'abord de la sortie de cet album parce qu'il est très beau. Le livre sort en même temps, je suppose ?
Oui, absolument.
Donc tout ça, c'est disponible chez votre disquaire, votre libraire préféré. Dernière question. C'est un tournant, véritablement, dans ta carrière, que ces deux œuvres, ce rêve, parce que c'en est un, j'ai pas parlé du visuel qui est magnifique aussi, qui lui aussi s'inspire du Kurosawa, mais oui, c'est quoi ? C'est un bilan ou c'est un tournant, cette histoire ?
C'est une virgule, on va dire. C'est une parenthèse. C'est une envie que j'ai depuis le début, depuis que j'ai commencé à faire de la musique. Je raconte dans l'introduction, en fait, pourquoi je fais ce projet. Pourquoi j'ai fait ce projet maintenant. Mais voilà, j'avais une inspiration qui remonte à plus de 20 ans, qui est un autre compositeur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Prefuse 73, et qui avait fait un petit peu la même démarche il y a très longtemps. Il avait fait un album comme ça, très onirique, en plein milieu d'une discographie hip-hop très forte, très dense. Et je trouvais que c'était vraiment très cool de se permettre de prendre une respiration comme ça. Donc je dirais pas que c'est un tournant. Après, je dis pas que je continuerai pas sur cette lancée-là, mais bon, j'ai déjà des projets à venir et qui sont du bon Senbei pur et dur.
En tout cas, si c'est une parenthèse, elle est enchantée et nous, on est bien ravis de l'avoir mise en avant toute cette semaine sur les radios de la Ferrarock. Bien évidemment, qu'on vous recommande l'achat et du livre et du disque Rêve. Tiens, je dis disque, je sais qu'il est disponible chez Banzai Lab en digital. Est-ce qu'on peut imaginer du physique aussi?
Il y a le vinyle,
ouais,
qui est sorti, et il y a un coffret collector, il en reste une dizaine, je crois, avec le livre et le disque.
Donc à se procurer, où ça? Tiens, dis-nous tout.
Bah, sur le site de Banzai Lab.
Sur le site de Banzai Lab, tout simplement. Senbei, c'était un plaisir que t'avoir avec nous, encore bravo pour ce rêve, et on va évidemment continuer à l'écouter et à le diffuser sur nos radios de la Ferrarock.
Merci beaucoup.
Très beau rêve, continue à faire des rêves, c'est bien.
Ça marche. À bientôt.
Depuis les studios de la radio montréalaise CISM, Marine s'entretient avec Hélène Barbier à l'occasion de la sortie de Panorama, son troisième album, sorti via Bon Sound le 14 novembre.
Poussière distancée, tout est très bien rangé. Canapé plastifié, tout est figé. Un moustique écrasé qui viendrait tout gâcher. J'espère au moins que tu passes une bonne journée. se promener. Se tourne enfin, tout ira bien. Demain matin, savoure tes vitamines. La page se tourne enfin, tout ira bien. Des souvenirs emballés dans une boîte enfermée. Notre nom envoyé trop raturé. Et pourtant, tu le sais. Est passé, tu as remonté la pente avec succès. Je ne sais pas pourquoi, parfois je pense à toi. Qu'il fait froid et c'est là.
C'était Plastic Couch, extrait de l'album Panorama d'Hélène Barbier, et j'ai le plaisir de la recevoir dans les studios. Salut, comment tu vas ?
Bonjour, ben ça va et toi ?
Ben moi ça va très bien, justement ravie de découvrir ce nouvel album. Alors on y retrouve 9 titres, mais avant ça j'ai pu voir notamment 2 premiers albums, un sorti en 2019, Have You Met Elliot, et Regulus en 2021. Celui-ci arrive, qu'est-ce qui s'est passé entre la sortie de Regulus en 2021, puis justement celui-ci, Panorama il y a une semaine, pour toi?
Je dirais que j'ai voulu prendre mon temps. Mes deux premiers albums, j'avais comme envie de qu'ils sortent vite. J'avais écrit des chansons, je voulais qu'ils sortent vite. Et puis, et l'album Panorama qui vient de sortir, c'est, j'ai voulu prendre mon temps, c'est ça.
Donc tu dirais que ouais, dans ta composition, ça a été vraiment très rapide et tu as sorti ton album. Puis l'autre, un peu plus de recul, par exemple?
C'est ça, et puis... évidemment, de fait, j'ai passé 3 ans dessus, mais pas en continu, évidemment. J'ai un travail, tout ça, une vie privée, enfin bref. Je me donnais pas d'échéance, en fait. Je me donnais pas de deadline. Donc, de temps en temps, je me mettais à faire une chanson. Puis, quand j'ai commencé à avoir encore plus de chansons, je me suis dit, c'est un album, enfin, c'est l'album, quoi. C'était ça.
Donc ça t'a pris sur vraiment plusieurs mois, ou alors c'est vraiment sur 3 ans, tu faisais de la musique par ici, par là, puis à un moment t'as tout rassemblé? Comment ça s'est passé?
Je pense les deux premières années, je préparais les chansons, et puis après c'était plus l'enregistrement qui s'est fait en plusieurs étapes. Et puis comme je faisais appel à des collaborateurs, à des gens, enfin des amis ou des gens, enfin des collaborateurs, quoi, je devais aussi aller avec en fonction de leur disponibilité, enfin des choses vraiment très pratico-pratiques, quoi, pas du tout artistique, c'était plus c'est ça.
Gérer un agenda, puis
c'est ça,
toutes ces choses.
Et puis, ouais.
Donc là, c'est ça, ça nous fait 9 titres pour cet album Panorama. Sur ces 3 ans, est-ce que t'as vraiment comme, je sais pas moi, peut-être, mettons 12 ou 15 titres, puis t'en as choisi 9, ou alors t'en as vraiment comme beaucoup plus qui ne sont pas forcément sortis, puis tu as dû vraiment trier dans tout ça?
Non, en général, si j'écris une chanson, je ne veux pas la laisser... ça ne m'est jamais arrivé encore, je ne dis pas que ça ne m'arrivera pas. Mais s'il y a une chanson que je n'ai pas mise sur cet album, mais en général, quand j'ai une chanson, je la sors. Enfin, je ne veux pas la laisser dans l'ombre, c'est ça.
Elle ne reste pas à dormir?
Non, c'est ça, mais...
Il n'y a pas des petits projets ou quelque chose, comme quelques notes que tu laisses par ici ou par là? Vraiment, généralement, tu as une idée puis tu l'explores et ça donne une chanson.
C'est souvent ça. C'est toujours le. Je prends toujours ma basse et je me dis ah cette chanson là sera enjouée ou cette chanson là sera. Enfin j'ai une vague idée de la direction dans laquelle ira la chanson. Et puis ensuite, pour les paroles, ça dépend vraiment. Mais certaines, ça vient tout seul. Et puis ça s'écrit assez vite. Et puis, j'ai l'impression de dire des généralités, mais c'est comme ça que ça se passe. Mais
pas forcément pour tout le monde. C'est ça qui est intéressant.
C'est vrai. Et puis pour d'autres chansons, en fait, il y a des phrases vraiment qui vont m'irriter. C'est les seules que je trouve. Et puis en fait, je vais les garder, mais je sais que je vais vouloir les changer. Parce qu'elle mérite vraiment. Et puis, quand j'ai trouvé la modification à apporter, la chanson est finie, quoi.
Des fois, tu prends juste ta basse, puis tu as comme une idée d'une... ouais, comme tu dis, un petit peu une ambiance de la chanson avant de trouver des paroles.
Oui. C'est ça, souvent. C'est souvent ça. Après, il y a des surprises aussi, parce que, par exemple, les chansons... sur lesquels j'ai collaboré avec Ben Lalonde, Plastic Couch par exemple, et Lapin. Il est guitariste, Ben Lalonde, dans mon band. Et puis, je suis souvent surprise de ce qu'il propose. Je lui donne pas vraiment trop de direction. Et puis, à chaque fois, j'ai une idée. Et puis, en fait, lui, il va venir avec sa guitare. Et puis, je vais me rendre compte que c'est aux antipodes de ce que j'avais imaginé, mais j'aime beaucoup, donc je m'adapte.
Bonne surprise aussi, finalement.
Oui, c'est ça, vraiment.
Puis après, tu dis, des mots, des fois, des phrases, des lignes qui vont devenir, que tu n'aimes pas spécialement, mais que tu vas garder jusqu'à trouver la bonne.
C'est ça, ouais, j'ai essayé de trouver. En fait, je passe beaucoup de temps dans le dictionnaire des synonymes. C'est vraiment ça.
Tu trouves ton bonheur ou c'est comme une amitié un peu étrange?
C'est un peu étrange, parce qu'à chaque fois, c'est parce que ça vient... j'ai besoin d'aide, quoi.
Est-ce qu'il t'aide vraiment ou...
Quand même.
Ça va alors, on va le garder. Et c'est drôle justement que tu parles de la basse comme première chose qui te vient pour composer, parce qu'en écoutant ton album justement, je trouve que quelque chose que j'ai pu, je sais pas, relever, après c'est peut-être juste ma sensibilité, mais c'est justement la basse que je trouve assez présente, puis qui va être comme une continuité sur ta musique et aussi dans ton album, fait que c'était aussi ma question, si vraiment la basse c'est quelque chose d'important pour toi qui va vraiment venir comme le squelette de ta chanson.
C'est exactement comme ça que je le perçois, mais je suis sûre que si tu posais la même question au musicien, il dirait que non. Évidemment. Mais c'est sûr que toutes les chansons, elles sont nées de la basse d'abord. C'était basse, batterie. Et il n'y a pas d'exception. Toutes les chansons, c'était, même pour celles pour lesquelles j'avais déjà les textes, c'était basse, voix. Et après, le reste s'est ajouté. À part Marcel, la ligne de basse qui est complètement ascendante, descendante. Là, c'est la seule fois où c'est le batteur qui m'a proposé une rythmique. Et j'ai joué la basse par-dessus et je galérais à trouver une ligne de basse sur une partie de batterie déjà écrite. Puis j'ai commencé à jouer comme ça et puis j'ai trouvé ça super, c'est tout.
Est-ce qu'il y a eu batterie, basse et paroles ensuite?
Ouais.
Oh, ok.
Et après les guitares et après les...
Tu fais la soupe dans un ordre différent.
C'est ça, vraiment.
Est-ce que dans le dernier titre de l'album, Water, la batterie, justement, a quelque chose d'un peu différent par rapport aux autres musiques?
Non. Peut-être qu'on a mis un petit peu de reverb sur les snares, sur les caisses claires, mais... je pense, le traitement peut-être, c'est le traitement de la batterie, il est peut-être différent un peu.
Je parlais plus dans la composition, la création, mais je ne sais pas, à certains moments j'ai l'impression qu'elle est peut-être un peu plus présente que dans d'autres chansons.
Mais parce que la ligne de basse elle est super simple et c'est vrai, je vais très répondre correctement. Celle-ci c'était vraiment basse batterie tout de suite et puis ensuite guitare. Et maintenant la batterie elle était vraiment présente, Ouais.
Donc c'est ça, alors tu parles souvent de ta composition seule et aussi des musiciens qui t'accompagnent. Hélène Barbier, tu dirais que c'est plus un projet solo ou un band, comment est-ce que toi tu le vois?
Les deux
c'est une bonne réponse.
Oui, c'est vraiment les deux, mais c'est pas quelque chose auquel j'avais pensé en commençant à faire de la musique sous mon propre nom. J'avais envie de le faire parce que comme ça je peux faire ce que je veux en tout temps. C'était un peu ça la raison. Mais c'est beaucoup de collaboration quand même, quoi. Après, la, le luxe, c'est que j'ai le dernier mot, on va dire. C'est un peu égoïste de dire ça, mais c'est juste que je choisis de la direction, je choisis la direction des chansons, je choisis les arrangements, je... c'est vraiment agréable de pas, c'est super chouette. J'ai joué dans des groupes, c'est super chouette de jouer dans des groupes, mais là j'ai comme plus de latitude. Je sais pas comment
un
dire
peu plus
ça.
Comme une direction artistique, ou ça. Comme être le chorégraphe ou la chorégraphe.
C'est un peu ça. Et puis après, j'ai quand même la chance de jouer avec des amis. C'est pas des gens qui sont embauchés, ça reste mes amis. On est un groupe, quoi. Quand on échange au sujet des pratiques pour le groupe, on dit toujours le band, c'est quand même collégial, quoi. C'est un peu égoïste de dire ça, mais le luxe, c'est que par exemple, quand là on est en train de monter le spectacle, de ces chansons, et puis on est obligé de créer des arrangements pour le live, et je peux me permettre de dire aux musiciens non, ça j'aime pas, ça c'est pas ça, là il faudrait faire ça à la place. C'est un peu autoritaire, mais c'est exact, mais c'est ça, c'est
après c'est un projet qui te ressemble aussi,
mais c'est ça. Ouais vraiment, je pense que c'est quand même ça reste collégial dans une certaine mesure, quoi.
Est-ce que ce sont toujours les mêmes musiciens, musiciennes qui t'ont accompagné depuis le début du projet?
Oui, bah juste le batteur, ça a changé plusieurs fois. Et puis, Claire, en fait, Ben Lalonde, j'avais un groupe avec lui qui s'appelait Fern. Et puis, Joe, c'est mon mari. Et donc, il l'accompagne depuis le début.
Il est là souvent.
Et puis, Claire, en fait, elle nous a rejoints pour une tournée en France. On avait fait une petite tournée en France. Et puis elle est restée dans le band parce que, elle est devenue indispensable, quoi. Donc, c'est ça. Et puis les batteurs, ils alternent parce qu'ils sont très sollicités. Et donc, jusqu'à présent, c'est pour ça que sur le disque, ils sont là tous les deux, Thomas Molander et Samuel Gougou, parce qu'ils jouent tous les deux, dans de nombreux bands. Donc c'est pour ça, j'ai le luxe d'avoir deux batteurs.
C'est bien aussi.
Ouais, c'est ça.
Donc là, ton album est sorti le 14 novembre. Cette entrevue va être diffusée donc à Montréal, mais aussi sur des radios en France. Où est-ce qu'on va pouvoir te retrouver justement après la sortie de ton album?
En
show, en concert.
Ah oui. D'abord, là, je vais jouer à Montréal le 27 novembre, à la Toscadura. Et le 28 au Pantoum à Québec, c'est un double lancement avec Douance qui vient de sortir un album aussi. Et donc on va partager l'affiche toutes les deux. Et puis il y aura aussi Garden of Love en première partie à Montréal. Et ensuite, je ne sais pas si c'est vraiment annoncé ou pas, mais en février j'aurai quelque chose aussi à Québec, Montréal et Toronto. Mais j'essaie aussi de m'organiser une petite tournée en France ou en Belgique, mais c'est en cours, quoi. C'est pas dit que ça se passe, mais j'ai bon espoir.
Ce sera d'abord plutôt le Québec, et puis éventuellement un petit coucou en Europe sur quelques dates.
Oui, c'est ça, c'est le but, ouais.
Comment, justement, tu parlais d'une tournée que tu avais déjà faite en France, il me semble. Comment est-ce que le projet avait été accueilli là-bas?
C'était super, mais c'était vraiment rock'n'roll. C'était avec Christian Knopf, qui est un musicien, un ami, un musicien montréalais. On avait tourné ensemble, son groupe et mon groupe, parce qu'on partage des musiciens. Et on a souvent joué devant une dizaine de personnes. Donc, les 10 personnes qui étaient là avaient l'air contentes. Mais c'était... Et puis, c'était fun. On est allé aussi en Italie, en Allemagne, en Suisse et aux Pays-Bas. Mais c'était vraiment confidentiel. C'était génial, mais c'était vraiment confidentiel, quoi. C'était pas très, très confidentiel.
Est-ce que tu t'attends à avoir peut-être un petit peu plus de monde avec la sortie de cet album?
Disons que ça aiderait parce que ça me permettrait de booker des dates un peu plus facilement. Mais à vrai dire, ça me plaît de jouer devant 10 personnes, 20 personnes, ça m'est égal. Évidemment, ça ne m'est pas arrivé souvent de jouer devant des grandes foules. Ça m'est arrivé par exemple quand je faisais des premières parties, mais c'est... Si, j'espère que des gens viendront, qu'est-ce que je dis ? Enfin, je peux dire que si, c'est pas...
Mais ouais, non, mais c'est bien s'ils viennent, mais 10, c'est accepté aussi.
Oui, c'est ça, ouais.
Très bien. Bah, en tout cas, l'appel est lancé, et puis évidemment, on va pouvoir te suivre un petit peu partout sur les réseaux, j'imagine, à la radio aussi, sur les radios Ferrarock qui soutiennent ton projet. Puis merci beaucoup de nous avoir parlé un petit peu plus de ton projet. Ravie de t'avoir reçu.
Mais merci beaucoup, merci à toi.
This one is merrier, decisive, demeanor. Still my patience grows more. Still my patience grows more.
Moonshine est devenue une référence du clubbing et de la musique électronique au Canada et à l'étranger. Ce collectif organise des événements tous les samedis après chaque pleine lune dans des lieux gardés secrets et uniquement révélés par SMS, d'où le nom de ces soirées. SMS for Location. Au-delà d'un concept de soirée, ces artistes font le lien entre toutes les musiques d'Afrique et des afro-descendants. En découle également une sortie annuelle de compilations dans lesquelles sont présentées les multiples inspirations musicales que l'on entendrait lors de ces événements. Voici un extrait du volume 6 de la compilation 2025 avec le titre Monkey Effect avant de retrouver Marcus pour une rapide conversation avec Pierre Quanders, cofondateur de ce collectif prolifique à l'occasion de leur performance lors du festival Le Festif.
Avignon, représentant encore de la scène montréalaise, scène en plus bien particulière, c'est Pierre Quenders qui est avec nous au festif. Comment ça va, Pierre?
Ça va très bien, merci. Et toi?
Bah écoute, on est ravis d'être là depuis quelques jours. Toi, je crois que tu viens juste d'arriver avec le collectif Moonshine.
À l'instant même, c'était une longue route quand même, hein. C'est un bon 4 heures. Et en plus, il y avait beaucoup de trafic à partir de Montréal, mais on a réussi à être là. Donc, on est là à temps pour la fête ce soir. Oui. Et on aime ça, faire découvrir surtout de la nouvelle musique, la nouvelle musique africaine, électronique, qui vient d'Afrique. Et Moonshine, on vient de sortir d'ailleurs il y a quelques mois, notre sixième volume de SMS for Location, donc qui est rempli de sons de partout, du Canada, de la Tanzanie, du Portugal, de Montréal. Donc c'est un melting pot de joie de vivre, je dirais.
C'est vrai que ce concept-là de SMS for Location, il est génial parce que il est d'une liberté absolue. C'est quand même un cadre extrêmement non rigide, je dirais.
Pas du tout, hein, pas du tout. C'est vraiment pour le kiff, comme on dit. C'est vraiment pour le kiff. Et SMS de location, d'ailleurs, s'il faut parler de ça, ça part de la soirée Moonshine, qui a toujours des lieux secrets et les gens doivent envoyer un message à un numéro.
C'est toujours ça,
toujours le cas. C'est toujours le cas. Donc, faut envoyer un message. On a des clients un peu plus fidèles maintenant qui n'attendent même pas de recevoir le message pour leur dire qu'il y aura une Moonshine très bientôt, mais qui suivent le calendrier lunaire parce que c'est tous les samedis après la pleine lune.
Voilà, bah comme ça, c'est simple à connaître. Et ça garde aussi ce côté un peu mystique, hein, que t'évoques là. C'est aussi ça, ce qu'on retrouve chez vous à travers même toute la musique africaine que vous défendez, que plein de vigueur, plein d'électro aussi, mine de rien.
Ben, beaucoup d'électro, mais aussi du folk africain, la musique trad africaine qui se rapproche beaucoup des sons électroniques. D'ailleurs, dans le volume Singili, qui est un genre créé dans le ghetto à Dar es Salaam, en Tanzanie, qui est dans les 160 BPM, donc ça bouge très fort. C'est comme si on assistait à une soirée techno, mais c'est beau de voir. Ça, et ce qu'on nous on fait à Moonshine, c'est qu'il y a tous ces sons-là qui sont un peu créés partout, qui ont un peu des origines similaires, et de mettre ça ensemble, de faire danser, de voir qu'on peut créer ce pont-là entre différents sons, entre différentes cultures, c'est magnifique.
C'est un travail d'amour aussi, évidemment. Comment vous faites?
D'amour, toujours de l'amour.
Mais vous restez en veille permanente, parce que la musique en Afrique, elle évolue sans arrêt. Enfin, là, il y a eu cette grosse mode autour de l'afrobeat, mais qui est maintenant presque une musique classique, je dirais. Parce qu'en 2 ans, ça devient une musique classique, quoi.
Ben oui, c'est ça. Mais nous, on y va. Hein. Ça a été important pour nous et on a fait notre premier pèlerinage en Afrique. Pas pour dire qu'on est retourné pour la première fois, mais en tant que collectif, Moonshine, on est allé pour la première fois durant la pandémie au Congo. Rencontrer les artistes là-bas, voir vraiment ce qui se passe là-bas sur le terrain et apprendre un peu. Et depuis, on est allé en Côte d'Ivoire, au Kenya, je parlais de la Tanzanie, on a passé quelques temps à Zanzibar et à Dar es Salaam, mais aussi à Kampala, en Ouganda. Là, on réfléchit à aller voir ce qui se passe en Angola, parce que l'Angola nous a donné le coup d'ouro il y a quelques années, le coup d'ouro qui a enfanté la Batida au Portugal, à Lisbonne. Et nous, on est des amoureux de la Batida, donc on a envie d'aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Peut-être qu'il y a une autre évolution de du coup d'ouro qu'on ne connaît pas, donc on aimerait beaucoup faire ça. Donc. Bah d'abord, Montréal, c'est le meilleur public. C'est des gens curieux qui aiment découvrir, qui aiment sortir, que ce soit été, hiver. Et je pense que c'est cette curiosité-là qui les attire, en fait, à savoir que c'est un peu mystérieux. On ne sait pas nécessairement qu'est-ce qui va être joué. Il y a des DJ de partout, de différents genres qui passent durant la soirée. Donc, ça fait voyager les gens et il y en a qui reviennent. Hein. Ça fait plus de 10 ans là, qu'on fait ça maintenant. Et il y en a qui reviennent, qui sont assez fidèles. Bon, ils ne viennent pas tous les mois. Mais c'est des visages qu'on voit moi une ou deux fois par année, tout ça, et ça fait plaisir que les gens sont encore intéressés aujourd'hui à découvrir et puis à s'enjailler avec nous.
ezangai oyo nyataka te na se ezangai alela tangas laisse me approche I'm so sweet come to party I'm not busy right now kiss me right now I'm so free
Clôturions cette émission avec le titre Moon, issu de la compilation SMS for Location du collectif Moonshine en featuring avec Kelly Gomez. Panorama par Hélène Barbier, paru sur le label montréalais Bon Sound, ainsi que Rêve par Senday, sorti sur Banzai Lab, sont les deux albums soutenus par les radios de la Ferrarock cette semaine et qui vous étaient présentés respectivement par Marine de CISM et Marcus de Radioactive. Ces deux albums sont disponibles depuis le 14 novembre en disque ou partout sur Internet. Pour écouter cette émission et en savoir plus sur les albums et festivals soutenus, rendez-vous sur www.ferrarock.org.